des hommes armés ont attaqué un poste de police à Zahedan, chef-lieu de la province du Sistan et Baloutchistan. Deux des terroristes ont été tués par les forces de l'ordre. Au Liban, lors de la prière du vendredi, les fidèles ont été pris pour cible par des assaillants. Et un comité de l'ONU a appelé la France à veiller à ce que l'enquête sur le meurtre de Nahel soit approfondie et impartiale. C'était les principaux titres. En voici le journal. Ce samedi matin, 8 juillet, quatre hommes armés ont attaqué un poste de police dans la province du Sistan et Baloutchistan, dans le sud-est de l'Iran, et ont ouvert le feu à l'aveuglette dans le bâtiment. Lors de cet attentat, un membre des forces de l'ordre et deux assaillants ont été tués. Tasnim News rapporte que deux des assaillants ont fait exploser leur gilet chargé d'explosifs devant le poste de police de Zahedan, chef-lieu de la province. Un membre des forces de l'ordre a été tué par les terroristes et deux des quatre assaillants terroristes ont été abattus par la police. La chaîne Al-Alam a d'ailleurs rapporté que les deux autres terroristes étaient encerclés par la police. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, s'est entretenu samedi 8 juillet avec son homologue algérien Medhataf au siège du ministère iranien des Affaires étrangères à Téhéran. Ils ont mené des échanges de vues sur l'élargissement des relations bilatérales sur divers plans, en particulier les relations économiques et commerciales, ainsi que les développements régionaux et internationaux, y compris les évolutions qui traversent les territoires occupés de la Palestine. Le ministre algérien des Affaires étrangères a insisté sur le développement des relations bilatérales avec la République islamique d'Iran dans divers domaines. Lors d'un point de presse avec son homologue algérien, le chef de la diplomatie iranienne a félicité le gouvernement et le peuple algérien à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Amir Abdollahian a déclaré que les relations entre les deux pays sont sur la bonne voie et qu'un accord bilatéral devrait être conclu sur l'annulation des visas politiques dans un premier temps, puis sur l'annulation des visas réguliers. Dans ce sens, un comité mixte de suivi sera formé au niveau du premier vice-président de la République iranienne, du premier ministre algérien et des ministères des Affaires étrangères des deux pays. L'Iran et l'Algérie comptent promouvoir leur coopération dans les domaines de la science et de la technologie, des entreprises fondées sur la connaissance, de l'agriculture, de la médecine, de l'industrie et des mines. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que Téhéran poursuivait une diplomatie dynamique et des efforts pour protéger ses intérêts nationaux. Dans un post publié sur son compte Twitter, vendredi 7 juillet, Amir Abdollahian a fait un bref rapport sur ses démarches diplomatiques effectuées au cours de son voyage de 2 jours à Bakou. Le chef de la diplomatie iranienne a assisté à la réunion de 2 jours du mouvement des non-alignés MENA à Bakou, en Azerbaïdjan. Avec pour thème principal, MENA unie et résolue à affronter les défis émergents, la réunion ministérielle du MENA du bureau de coordination s'est ouverte mercredi. Le haut diplomate iranien a prononcé un discours lors de la réunion du MENA et a également assisté au comité ministériel de ce mouvement sur la Palestine. Dans son message sur Twitter, Amir Abdollahian a déclaré qu'il avait également eu des rencontres avec le président azerbaïdjanais et ses homologues de la Turquie, de l'Irak, de la Malaisie, du Soudan, de la Biélorussie, de la Syrie, du Koweït et du Nicaragua. Amir Abdollahian a déclaré avoir également rencontré Iyad al-Maliki du mouvement de libération Fatah de Palestine. Une diplomatie dynamique est en cours pour poursuivre la réalisation des intérêts nationaux de l'Iran, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. S'adressant à la réunion ministérielle du bureau de coordination du MNA, il a rappelé l'existence d'une politique iranienne de consolidation des relations de voisinage en mettant l'accent sur les acquis remarquables de cette politique dans la lutte contre le terrorisme. Il a rappelé aussi que l'Iran a prouvé qu'il était un partenaire fiable pour les pays voisins. La production d'acier brut de la République islamique d'Iran a représenté 70% de la production totale de la région du Moyen-Orient au cours des 5 premiers mois de l'année en cours, selon les dernières données publiées par l'Association mondiale de l'acier, WSA. L'industrie sidérurgique iranienne a produit 13 millions de tonnes d'acier brut de janvier à mai 2023, enregistrant une hausse de 2,2% par rapport à la même période en 2022. Les producteurs d'acier situés au Moyen-Orient, dont l'Iran, le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ont produit ensemble un total de 18,7 millions de tonnes d'acier en once d'1,1%. Les 63 leaders mondiaux du secteur ont produit 786 millions de tonnes d'acier au cours de la même période, en baisse d'1,2%. Les pays d'Afrique, dont l'Égypte, la Libye, l'Afrique du Sud et la Tunisie, ont produit 2,6 millions de tonnes d'acier, en hausse de 2,6% par rapport à l'an dernier. La production d'acier des pays d'Asie et d'Océanie, dont l'Australie, la Chine, l'Inde, le Japon, la Mongolie, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, la Corée du Sud, Taïwan, la Thaïlande et le Vietnam, s'est établie à 588,4 millions de tonnes, en hausse de 0,7%. Les 27 pays de l'Union européenne en ont produit au total 56 millions de tonnes, en baisse de 10,4%. Plusieurs fidèles ont été pris pour cible lors de la prière du vendredi 7 juillet dans le village de Bralias, dans la province de la Beka, dans l'est du Liban. Lors de cette fusillade qui a eu lieu, alors que les fidèles étaient en train de sortir de la mosquée, deux fidèles ont été tués et quelques autres blessés, a écrit Al-Mayadin. On ignore encore le motif et l'identité des auteurs de l'attaque. L'assaillant a finalement été grièvement blessé par la balle des forces de renseignement de l'armée libanaise avant d'être transféré à l'hôpital. Un comité de l'ONU a appelé vendredi la France à veiller à ce que l'enquête sur le mort de Nahel, un adolescent tué par la police près de Paris, soit approfondie et impartiale et a appelé à l'interdiction du profilage racial. Le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale, CERD, composé de 18 experts indépendants, a fait part de ses préoccupations concernant le profilage racial et l'usage excessif de la force par les forces de l'ordre. Il condamne le pillage et la destruction de biens privés et publics, ainsi que les informations faisant état d'arrestations massives et de détentions de manifestants. Il se dit aussi profondément préoccupé par la pratique persistante du profilage racial et l'usage excessif de la force par les responsables de l'application des lois, en particulier la police, contre les membres des groupes minoritaires, les personnes d'ascendance africaine et arabe. Le comité s'est par ailleurs félicité de l'ouverture d'une enquête sur les circonstances qui ont abouti au mort de Nahel, qui a suscité une éruption de violence en France. L'instance onusienne a appelé les autorités à s'attaquer en priorité aux causes structurelles et systémiques de la discrimination raciale, y compris dans la mise en vigueur des lois. Cette intervention du CERD intervient au moment où le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a validé l'interdiction de la marche prévue samedi 8 juillet en mémoire d'Adama Traoré pour le 7e anniversaire de sa mort. Le président américain Joe Biden a approuvé ce vendredi, au terme de plusieurs mois d'intenses débats internes à Washington, l'envoi d'environ une centaine de milliers d'armes à sous-munitions à l'Ukraine, en dépit de la législation américaine qui interdit quasi inconditionnellement la production, l'usage ou le transfert de ce type d'armement. Le gouvernement ukrainien a appelé le gouvernement du président américain Joe Biden à approuver l'envoi de munitions conventionnelles améliorées à double usage, DPICM. La Maison-Blanche a déclaré vendredi que les États-Unis enverraient à l'Ukraine un paquet d'armes à sous-munitions pour l'aider dans sa contre-offensive contre la Russie. Biden a affirmé que cette décision était très difficile, mais que les forces ukrainiennes en manquaient. Soit ils ont les armes pour arrêter les Russes maintenant, les empêcher d'arrêter l'offensive ukrainienne dans ces zones, soit ils n'en ont pas. Et je pense qu'ils en avaient besoin, a-t-il dit. Le Pentagone a annoncé dans un communiqué que le nouveau programme d'aide militaire annoncé vendredi comprenait des munitions conventionnelles améliorées à double usage, faisant référence aux armes à sous-munitions. Les bombes à sous-munitions sont interdites en vertu de la Convention sur les armes à sous-munitions, un traité international qui traite des conséquences humanitaires et des dommages inacceptables causés aux civils par les armes à sous-munitions par le biais d'une interdiction catégorique et d'un cadre d'action. Voilà, si ça achève le journal, merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. We'll be right back. Blocage des réseaux sociaux en France. Macron sous une avalanche de critiques. En réunion avec des maires, mardi 4 juillet, dans un contexte tendu, après plusieurs nuits de violence à travers la France, le président français Emmanuel Macron a affirmé que l'une des options pour contrôler les manifestations pourrait être de couper l'accès aux plateformes de médias sociaux telles que Snapchat et TikTok. Nous avons besoin d'avoir une réflexion sur l'usage des réseaux sociaux chez les plus jeunes, sur les interdictions que l'on doit mettre, et quand les choses s'emballent, il faut peut-être se mettre en situation de les réguler ou de les couper, a-t-il dit lors d'une réunion avec 220 maires, dont les communes ont vu des milliers de personnes qui protestaient contre le gouvernement. Il ne faut surtout pas le faire à chaud, et je me félicite qu'on n'ait pas eu à le faire, a-t-il ajouté. Selon le gouvernement, lors des récentes manifestations de protestation d'envergure en France, des jeunes ont utilisé les médias sociaux pour organiser les manifestations à la suite du meurtre de Naël, jeune adolescent de 17 ans par un policier dans la banlieue parisienne. La semaine dernière, Macron a pointé du doigt les plateformes de médias sociaux et les jeux vidéo, faisant valoir qu'ils sont à l'origine des violences à travers l'Hexagone. Ces propos ont provoqué une vive réaction de l'opposition. La cofondatrice du collectif Front des Mères, Fatima Ouassak, qui représente les parents des quartiers populaires, a déclaré que la question est une diversion. C'est une tactique de distraction. Au lieu de discuter de la question de la brutalité policière, nous parlons de la responsabilité des médias sociaux et des parents, a-t-elle dénoncé. Mercredi, le gouvernement français a tenté de minimiser les remarques de Macron sur la possibilité de couper les réseaux sociaux pendant les troubles. Les responsables de l'Élysée ont déclaré que le président ne menaçait pas d'une panne générale, mais plutôt d'une suspension occasionnelle et temporaire des plateformes. Le président a dit que c'était techniquement possible, mais pas que c'était envisagé. « Rien ne doit être exclu par principe », a déclaré le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrot. Interrogé sur les propos de Macron lors d'une conférence de presse mercredi, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a indiqué qu'il pourrait y avoir des suspensions temporaires de fonctionnalités comme la géolocalisation qui permet aux utilisateurs de se retrouver à tel ou tel endroit, de montrer telle ou telle scène. Dans le sillage des manifestations, certains législateurs français ont tenté cette semaine de resserrer l'étau sur les plateformes de médias sociaux lors des votes sur le projet de loi actuellement en discussion à l'Assemblée générale.